Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, ce qui a attiré notre attention cette semaine, c'est cette déclaration. Écoutez bien, de Egan Bernal, vous savez, le Colombien vainqueur du Tour de France en 2019. Il a 28 ans aujourd'hui, court toujours pour l'équipe Ineos Grenadier. Et comme tout le peloton, il subit en ce moment la tyrannie de Tadej Pogacar. Voilà ce qu'il a déclaré cette semaine à un média en Colombie. Pogacar, je le cite, est d'un autre niveau. Quand on court contre lui, il nous fait souvent passer pour des nuls. Franchement, on entend ça quand même assez rarement, surtout de la part d'un champion qui a gagné le Tour de France. Les GG, aujourd'hui, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de ça. Comment accepter de ne pas être le meilleur alors que vous avez tous été certainement à un moment donné le meilleur dans vos catégories d'âge ensuite
tu parles des champions là.
Je parle des champions.
Christophe, c'est le meilleur dans ta catégorie à la fois d'âge
t'as commenté France-Nouvelle-Zélande en 99 avec Albana Dejo. Pour moi, c'est le meilleur.
Tu commenteras encore des matchs en 2029. Tu vois, donc
t'es mon meilleur
très longtemps.
Comment accepter de ne pas être le meilleur, Jérôme? C'est un sujet qui t'a touché, toi, dans ta carrière?
Moi, j'ai toujours été le meilleur.
Ça, le mec a un melon.
Non, c'est sûr que c'est un vrai sujet. Moi, on en parlait l'autre jour quand on a préparé l'émission. Je suis numéro 1 français en 99. Je passe professionnel en 2002. Je gagne des cours. Je progresse chaque année. Tout le monde me disait, tu vas voir chez les pros.
T'es numéro 1 français chez les jeunes ou chez...
En 2001, ouais. D'accord. Chez les jeunes. Ouais. Pas en 99. 2001, vélo d'or français, numéro 1 français. Ouais. En espoir. Tu vois. Et après, Et après, 2002, 2003, je fais le Tour de France, je suis néo pro, je fais deuxième d'une étape, je me dis ça, finalement, c'est que ça, tu vois, tu te dis, ça va le faire.
Tu franchis les obstacles assez facilement.
Okay. Et en 2004, je fais un super Tour de France, l'épopée Vauclair, la première. On se dit que tout est possible, on prépare des choses. Et 2005, paf, plafond de verre, ça y est, j'y suis, je suis au max de ce que je peux être. Et là, faut l'accepter.
Mais comment tu t'en rends compte?
Dépression. Parce que tu dis, je vais pas gagner. En fait, je sais. Parce qu'en montagne, il y a des lacunes. Parce qu'en chrono, il y a des lacunes. Parce que je suis pas managé de la meilleure des façons. Parce que j'en ai un bon père de famille, mais je ne mets pas les choses en place pour qu'on progresse vraiment. Et puis, physiquement, je le sais.
Individuellement, tu ne progressais plus. Je sais pas comment on peut dire.
Non, j'étais très loin de ce qui se faisait de mieux, en fait. Et la marge, j'avais 25 ans, je préparais les choses comme il faut. À l'entraînement, je mettais les charges de travail qu'il fallait pour mon âge à cette époque. Et je plafonnais, si tu veux. Alors, il y avait évidemment dans un cyclisme particulier à l'époque. Vitesse, ouais. Je m'en suis aussi rendu compte. Et si bien que c'est l'année de la création du World Tour, il faut faire du World Tour. Donc, nous, avec Bouygues Télécom à l'époque, Jean-René prend la licence et on se retrouve que dans des courses de très, très haut niveau. Il n'y a plus la Coupe de France où, à l'époque, j'y allais en me disant, j'aime refaire, je fais au moins podium ou dans les 5 premiers. C'était à peu près ça. Là, j'avais plus ça. Et pendant une année, j'ai passé une année à me faire taper dessus. Et ça a été très, très compliqué.
Dépression.
Clairement. En 2005, j'ai réfléchi à arrêter le vélo. J'avais un contrat en cours. Et j'en avais parlé à Jean-René. Je dis, si c'est ça, j'arrête, en fait. Ça sert à rien.
Parce que quand t'es gamin, quand t'es meilleur jeune français, tu as l'espoir de remporter le tour, de remporter les grandes classiques.
Pas remporter le Tour de France, mais on me dit que je peux éventuellement viser un top 5, 10 un jour. Bah, t'es numéro 1 français, t'as des qualités de grimpeur. Tu te dis qu'avec des progrès en chrono et des entraîneurs, tout est professionnel. Tu te dis, bah, pourquoi pas, en fait, ces gens-là connaissent mieux que moi. Est-ce qu'ils y sont déjà?
Oui, bah, parce que toute ta jeunesse, t'es le meilleur. C'est-à-dire que tu gagnes
France.
Non, mais évidemment, mais tu fais des courses en minime, en benjamin, en cadet, tu mets des sous à tout le monde.
La particularité que j'ai, moi, c'est que je commence le vélo à 17 ans. J'ai pas fait minime cadet.
J'ai commencé
le vélo en junior première année. En deuxième année, j'étais en équipe de France. En troisième année, je suis rentré au Vendée U. Et quatre ans après avoir commencé, j'étais
l'ascension fulgurante.
Le mec, il enlève les petites roulettes à 16 ans. Il est numéro 1 français. Attends, c'est quoi ce parcours atypique?
Je sais pas ce que c'était que ce parcours, mais à mon avis,
Pascal, ça te parle, toi, quand on entend le discours?
Ouais, mais en fait, moi, très vite, j'ai compris que j'allais pas être le meilleur joueur. Mais bon, c'est différent. Vous êtes de sport individuel. Moi, je suis dans un sport collectif. Moi, mon parcours, je le décris très vite. Un papa ancien footballeur. Je suis dans une famille qui ne met aucune pression. Je fais du foot parce que j'adore ça. Je rêve avec mes copains, quand je joue dans la cour d'école, de gagner la Coupe du Monde. En fait, la trajectoire, on va dire, lambda du gamin qui aime ce sport-là. Et puis, bah, j'ai 13 ans, je fais une bonne performance. Il y a un concours, ça s'appelle le concours jeune footballeur. Je finis 7e national, premier de la Ligue Rhône-Alpes. Enfin bref, je joue dans un tout petit club.
T'es dans les cadors quand même. Quand tu.
Oui, et puis ensuite, là, je me rappelle les réunions familiales, quand il y avait quelque chose d'important, les quatre, ma sœur, mes parents. Et là, mes parents me convoquent un soir avant le dîner. Et mon père sort tout un tas de lettres. C'était tous les clubs professionnels qui voulaient m'accueillir dans leur centre de formation. Donc, à 14 ans, en 76, je pars au centre de formation du FC Sochaux. Donc, c'est le balbutiement des centres de formation. C'est ouvert en 74. Le FC Sochaux est
C'était avec l'élite des jeunes à l'époque.
Ah ouais,
super.
Et donc, je suis championnat de France cadet. Je joue au milieu de terrain offensif, ailier gauche. Je marque beaucoup de buts. Je me balade. Moi, j'ai commencé à jouer en pro à 17 ans.
Tu as des rêves?
Je pense que.
Tu penses à l'équipe de France, voilà, tout ça.
Ouais, parce que je suis aussi sélectionné chez les gamins en France, tout
et
ça.
Et donc, en plus, on est dans ces moments-là, Pascal, tu confirmes, on se met pas de limite, on est jeune.
Zéro limite.
On va tout exploser, on va tout péter, quoi.
C'est pas de, comment dire, c'est pas paraître présomptueux que de dire ça, mais c'est.
C'est pas prétentieux de dire ça, c'est évidemment.
Tu t'arraches. Et moi, à mon époque, il faut aussi que je précise ça, quand je dis pas de pression familiale, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont la pression familiale parce que c'est l'ascenseur social. Ouais. Moi, je venais d'une famille bien, donc j'avais pas zéro pression, si vous voulez. Simplement celle que je me mettais.
On t'a pas programmé à être le meilleur. C'était juste ton ambition, ton rêve.
Parce que très vite, si vous voulez, j'ai commencé à jouer en pro. Puis après, j'ai fait quelques mauvais choix. J'ai envoyé chier le directeur sportif du FC Sochaux qui me traitait mal à l'époque. Ok, donc on rebondit à Brest en D1 également. Enfin bref, mais très vite, malgré tout, moi, il est apparu chez moi mes limites physiologiques. C'est-à-dire que j'avais une petite caisse. Donc moi, à l'heure de jeu, j'étais capot contré, souvent, et j'ai subi des blessures. Donc très vite, j'étais très bon footballeur, encore une fois, mais très vite, j'ai compris que j'allais pas être... pour moi, l'équipe de France, c'était pas promis. Malgré tout, zéro dépression, j'ai fait une honnête carrière, bonne carrière, je me suis régalé. Et si vous voulez, le fait de pas avoir... on va dire confirmer peut-être ce que j'espérais gamin.
Dans le regard des autres, t'as une jeunesse, on t'imagine devenir une star du football français, dans les yeux de ton père par exemple, qui était dans le milieu, quand il comprend que tu vas pas être Platini.
Il sait que je vais être professionnel.
Le cap être professionnel. C'est déjà une grande fierté.
Parce que honnêtement, les sacrifices. Le centre de formation en 76, tu rentres deux fois chez toi par an.
C'est ce que tu disais.
Donc, attention, c'est chaud.
C'est chaud.
Tu fais pas de visio avec la maison.
Ça existe pas. Donc, t'as pas de portable, t'as rien du tout. Et puis, quand tu sors des jupons de ta mère, tu vas au centre de formation. Directeur du centre de formation, Pierre Tournier, exceptionnel personnage. Mais quand t'arrives, il dit à partir de maintenant, c'est moi le père. Donc tu te dis mais où je suis tombé, tu vois. Et tu te forges ton caractère, tu fais ton honnête carrière, et puis sans forfanterie, tu es content de ce que tu as fait, même si tu sais que t'as pas été le meilleur joueur de France ou du monde.
C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le vestiaire, comment accepter de ne pas être le meilleur. Bennett, toi t'avais des rêves aussi d'être d'être numéro un mondial.
Quand t'es petit, c'est ça, t'as les rêves du tennisman, c'est être numéro mondial, gagner un tournoi Grand Chelem.
T'as été le meilleur de ton club.
Moi, ça a été plus dur que chez les jeunes, parce que moi, j'ai été le meilleur en France quand j'avais 10 ou 11 ans. J'étais en équipe de France jusqu'à 13 ans, et après, de 13 à 17 ans, 18 ans, j'étais dans le deuxième wagon. C'est-à-dire qu'il y en avait 4-5 en France qui étaient meilleurs que moi. Et moi, j'étais un petit peu derrière.
C'était qui la concurrence?
Paul-Henri Mathieu, il est entre guillemets un an de moins. On a que 3 semaines d'écart, mais au niveau des licences sportives.
Ouais, c'est un an de moins.
Il a un an de moins. Donc lui, il était le plus fort. Il était le plus fort. Il avait un an d'avance chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il était le meilleur de France des joueurs nés en 82 et également des 81. Il y avait des l'entraîneur à un moment donné, moi j'étais à l'INSEP, l'entraîneur de Corey Goff aujourd'hui, Jean-Christophe Forel, il a été en équipe de France des moins de 16 ans.
Donc là tu vois déjà des gens te passer devant.
Bien sûr.
Et donc là c'est meilleur que toi.
Et en fait quand t'es jeune, c'est difficile parce que t'es pas du tout armé, préparé, t'es dans la préadolescence voire dans l'adolescence, t'as la concurrence qui peut être malsaine dans un sport individuel où tu vis avec les mecs, tu t'entraînes avec les mecs. Nous on était à l'INSEP à ce moment-là, la majorité, mais en même temps t'es en concurrence, et t'es dans une période de ta vie entre guillemets où t'es en train de te former à tous les niveaux et t'as ça à gérer. Et ça, c'est il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir des moments où de tristesse parce que avant d'arriver à l'INSEP, c'était pas aussi dur que ce que dit Pascal sur le centre de formation de Sochaux, mais moi je suis parti de chez moi, j'avais 11 ans et demi, j'étais en 5e. On rentrait une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines au Krebs de Poitiers. T'es une chambre individuelle à 12 ans au milieu de la forêt.
Ouais, ça calme quand même.
Déjà Poitiers, c'est pas simple.
T'as pas de portable.
À l'époque Poitiers ou Sochaux, j'hésite.
À l'époque il y a pas de portable. T'as les toilettes et les douches au bout du couloir qui sont collectives. T'as un téléphone.
Là, donc tu fais des sacrifices pour tout ça, énorme. Pour au final te dire c'est pas le meilleur.
Non, mais tes parents aussi. C'est-à-dire que tes parents, comme dit Pascal, tes parents confient, te laissent. Te laissent le 2 septembre.
Et donc toi, tu t'obliges, tu te dis je dois être le meilleur. Si
non, parce que tu t'en rends pas compte. Parce que là, moi, à ce moment-là, c'est mon rêve, etc. Mais quand j'en parle avec ma maman, je lui dis mais comment t'as pu me laisser partir? Elle m'a dit mais tu ne rêvais que de ça. Mais elle me dit mais t'inquiète pas. Hein. Pendant 4 ans ou 5 ans, j'ai pleuré tous les jours 5 minutes. Bah ouais, ça me faisait du bien. Mais elle me l'a jamais dit. Elle me l'a dit il y a 5 ans, 7 ans.
Si elle te le dit, tu rentres.
Mais bien sûr. Elle me dit, ça me faisait du bien. J'étais toute seule dans mon bureau, j'avais ta photo. Mais c'est normal. Tu laisses un petit garçon de 12 ans le 2 septembre et tu dois faire 450 km le soir même, rentrer à Bourg-en-Bresse. Mais mon père, il m'a dit, le soir, on t'a laissé. Et on a roulé une demi-heure, on s'est arrêté sur la route.
Qu'est-ce qu'on a fait?
Exactement, qu'est-ce qu'on a fait?
Ils ont failli faire demi-tour.
Non. Et là, après, parce qu'ils sentent que t'as une passion, parce qu'ils sentent que t'as un rêve, parce qu'ils te confient à des personnes, et c'est là où le rôle des éducateurs, parce que c'est des entraîneurs, d'accord, mais ce sont des formateurs, des éducateurs, les gens qui récupèrent.
C'est des rôles prépondérants.
Exactement, prépondérant. Et nous, à l'époque, à la Fédération Française de Tennis, on avait des vraies figures emblématiques qui, à la fois tennistiquement et au niveau des valeurs
et humainement,
tenaient la route. Et je pense que petit à petit, on a un petit peu perdu ça, des figures incarnantes où les parents peuvent faire confiance.
Comment accepter de ne pas être le meilleur? C'est la question qu'on se pose dans
le vestiaire. On a un point commun avec ça, les garçons, si vous pouvez aussi confirmer ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant de vouloir être le meilleur, on veut être professionnel.
Ouais.
Moi, je voulais être professionnel. Je voulais faire de ma passion mon métier. Avant d'être le meilleur dans mon sport, je voulais d'abord passer ce cap-là. De
t'as jamais voulu
de
devenir
sport.
Bernard Hinault.
Je voulais être footballeur professionnel avant.
Ah oui, toi, tu voulais
avant
être
ça.
Tout, oui,
ça je me rappelle que gamin, dans les fiches qu'au collège, on me disait quel métier tu veux faire plus tard. Je m'étais sportif professionnel.
Moi, je m'étais tennisman professionnel. C'est marrant.
Et moi, je m'étais sportif professionnel.
En CM2, on a retrouvé, il y avait un article dans Le Progrès, Bourg-en-Bresse. Ouais. Et le petit Julien Belletto qui joue au foot à Bourg-Perona et qui joue au tennis en même temps, et il dit, et j'avais dit tennisman professionnel, tu vois, c'était ça la.
Et je pense que l'acceptation de ne pas être le meilleur, il est quand même assoupli par le fait que t'es quand même au plus haut niveau.
Non, mais quand t'as cet âge-là, quand même, en plus, tu peux vite prendre la grosse tête. Quand tu bats tout le monde dans les tournois, tu bats tout le monde dans les courses, il faut aussi savoir gérer le boulard de 14 ou 15 ans.
Exactement. Mais alors, c'est vrai que c'est. Je sais pas si dans les autres sports ça existe, mais au tennis, tu le vois. Parce que à 14 ans, 15 ans, 16 ans.
L'équipementier qui arrive, t'as commencé à avoir les premiers contrats.
Ah, bah toi, t'as pas le contrat.
T'as pas le même polo.
Tu
achètes ton vélo, toi.
Exactement. Parce que les polos, nous, on peut citer une marque.
Ah, j'en donne deux ans, mais vas-y.
Une marque américaine à la virgule.
La virgule la plus connue du monde.
Quand t'étais chez les jeunes et que t'avais un contrat.
Si t'étais là, c'était bien.
Mais il y avait deux types de contrats. Il y avait le contrat international et le contrat national.
Bien sûr.
Et les tenues étaient différentes. Donc, on voyait à l'époque, il y avait la virgule sur la manche, et un petit carré avec la petite virgule à l'intérieur sur la poitrine. Et le contrat international, c'était l'inverse. Et le Canada. Et donc nous on le voyait. Donc,
en fait tu identifies très bien qui sont les meilleurs.
Et voilà.
Regarde, je te montre que je suis
le
meilleur.
Et ça te donne un statut.
Eh, bien sûr.
Et là, ça, dans tu les... le portes tout le temps. Alors, à la cantine.
C'est incroyable. Et toi t'es là et tu te dis. Putain, mais j'ai envie d'avoir comme lui, le mec reçoit les bien cartons sûr. À l'INSEP, alors, etc. Et j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de... Bien sûr,
t'as... Moi, ce qui m'intéresse, les amis, aussi, c'est dans votre confrontation. Comme dit Egan Bernal, il dit, on court contre Pogacar, il nous fait passer pour des nuls. Bennett, t'as joué contre les trois monstres du tennis de l'histoire, peut-être Federer, Nadal et Djokovic. J'ai tes stats sous les yeux. T'as affronté 8 fois Federer, t'as gagné 2 fois à Paris, à Rotterdam. T'as affronté 4 fois Nadal, tu l'as battu 1 fois. T'as affronté 7 fois Djoko, tu l'as battu 1 fois.
Djoko Nadal, ça compte pas.
Mais alors Djoko Nadal, justement, c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu les bats au tout début, en fait, quand ils sont jeunes, et après tu ne les bats plus quand ils deviennent très forts.
Non.
Comment t'acceptes ça, en fait? C'est-à-dire que tu rentres sur le terrain, ces mecs-là, tu sais qu'à un moment donné, ils sont arrivés à un niveau.
Demande à Gasquet.
Où ils sont plus battables. C'est quoi? Il y a une acceptation, il y a un renoncement.
Nadal, je me suis jamais dit ça, et pour une seule raison, c'est que je l'ai jamais joué sur terre battue, et encore moins Roland Garros, qui pour moi était le défi ultime du tennis. En revanche, j'ai joué Nadal à Cincinnati. Il était numéro 2 ou numéro 1 mondial, et je savais que je pouvais le battre. Et j'ai eu balle de match, j'ai perdu en 3-7. Et Djokovic, pareil. Alors Djokovic, c'est l'évolution la plus incroyable, parce que quand je le bats en 2006 à Indian Wells, si on me dit que 10 ans plus tard, en 2016,
il
on va
numéro
dire,
1.
Mais même pas parce qu'il était numéro 1 en 2009 ou 2010, mais si on me dit que 10 ans plus tard, il a 12 grands chelems, il va titiller Federer.
Tu crois pas?
J'y crois pas.
Donc du coup, t'es pas écrasé par son niveau de l'époque.
Mais à l'époque, quand je le bats, sa deuxième balle de service et son coup droit, ce sont des vraies faiblesses. Ce sont des vraies faiblesses. Et Djokovic, là où c'est dur.
Et après, tu te dis,
c'est que je le joue dans 2 ou 3 circonstances où je joue très bien, où je suis en forme. Et je prends 2 branlées monumentales. Je le joue en quart de finale à Indian Wells. Et je sors d'un tournoi où j'ai battu Dominic Thiem, Joe Tsonga, Feliciano Lopez. Donc des mecs qui savent jouer au tennis. Et j'arrive en quart contre lui. Et je prends 2 et 3. Et j'ai l'impression que lui joue au ping-pong. Il est sur sa ligne de fond. Et que moi, je suis... mais un faire-valoir,
c'est
quoi.
Très difficile.
Très dur. Et une autre année à l'US Open, il me met 3-7.
Mais alors comment t'acceptes ça? Tu dis, je le battrai plus, ce mec.
Je me souviens pas.
Tu joues pas le sport que moi, je suis pas invité.
Contre Djokovic sur dur à son prime, j'y arrivais pas, j'avais pas les armes, j'étais pas invité. Alors que Federer,
c'est dur à accepter
parce
ça.
Parce qu'il jouait
trop
vite.
C'est un sport du duel. Ouais. C'est un sport du duel, donc il y a des styles de jeu, il y a des trucs où tu te dis allez, je peux Federer, je le bats une première fois, il est numéro 1. Il n'était pas dans la forme de sa vie, mais j'y arrive. Quand je le rejoue après, je me dis, OK, c'est possible. Donc, j'ai réussi à le refaire une fois et une autre fois,
les confrontations dans le cyclisme, elles n'existent pas, sauf si tu te retrouves en one-to-one échappé.
Ah oui,
moi, j'ai fait ce genre d'acceptation est difficile. J'ai fait des courses, trophée des grimpeurs à l'époque en région parisienne. J'étais supérieur ou égal à Philippe Gilbert, par
exemple. Philippe Gilbert, coureur belge, était champion du monde.
En 2006, arrivé à Cadoudal, à Plumeleg, étape du Tour, premier Valverde, deuxième Gilbert, troisième Pinot. Tu te dis, je suis dans le jeu, quoi. Et le mec, après, il gagne des classiques, il gagne Lombardie, les champions du monde, et toi, tu restes là. Et ça, c'est dur. C'est dur à accepter. Ça, c'est très dur à accepter.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette... Parce que c'est vrai qu'en plus, je trouve que dans le vélo, il y a un truc... C'est pour ça que Bernal le dit, je pense, et que c'est fort. Il y a un truc un peu humiliant dans le vélo. Le mec, il te dépose.
Surtout, Bernal a gagné le Tour de France,
lui. Tu ne peux pas le rattraper.
Oui, non, mais il te lâche.
Cette image-là, elle est dure. Je ne le suivrai jamais, ce mec.
Tu ne peux pas le suivre. C'est humiliant. Bah oui, tu te fais... Le mec, il te lâche. Alors toi, tu l'as fait subir aux autres avant. T'étais le plus fort.
À la pédale,
et d'un coup, à la pédale, tu... Voilà, c'est ça, c'est l'expression la plus utilisée dans le vélo, c'est « Ah, il a pété à la pédale ». D'ailleurs,
Bernal n'a plus jamais été le même après son accident.
Bien sûr, mais c'est dur.
Egan n'a pas dominé le vélo comme domine Tadej Pogacar aujourd'hui. Il était le meilleur coureur de son époque, mais il n'était pas ultra dominateur.
À un moment donné, Bernal, on pensait qu'il allait gagner le Tour de France avant son accident.
Et Pascal, dans cette thématique, comment accepter de ne pas être le meilleur?
Noyé dans le collectif.
Non, mais même après aussi, en tant que coach, alors, t'as pas entraîné le Paris Saint-Germain au Real Madrid, des équipes dominantes?
Alors ça,
des équipes
si
dominantes,
j'ai pas...
c'est dur à accepter aussi parfois de bah, alors, tu sais que tu vas faire un championnat, tu ne seras pas champion, par exemple.
Oui, mais néanmoins, ça ne m'a pas empêché de battre le Paris Saint-Germain version Qatar de nombreuses reprises avec mes petites équipes. Oh, si tu aimes mieux. Mais ça, cela dit, si j'ai pas de regrets sur tout ce que j'ai accompli en tant que joueur et entraîneur, si je peux en avoir qu'un seul, c'est de ne pas avoir eu la chance. Avec mes qualités d'entraîneur, d'entraîner un club de meilleur standing que ceux que j'ai entraînés. Par exemple, aujourd'hui, je voudrais bien entraîner Rennes, moi, tu vois. Tu vois, mais
voilà,
attends, il y a Pino qui va t'appeler.
Non, mais tu vois, je voudrais bien entraîner un groupe de conséquents que j'ai choisi, un club avec des moyens. Tu vois, j'aurais voilà. Mais encore une fois, c'est, il y a pas d'envie dans ce que je dis. Hein,
oui, je suis pas envieux. Moi, j'ai managé une équipe aussi après, et le sentiment, il est pas le même quand même quand tu es athlète et quand tu es dans le staff et à diriger. C'est pas le même. Tu peux pas avoir le même.
Quand t'es retenu pour le Tour de France, quand t'es sélectionné,
là, t'as ému aux larmes pour diverses raisons. Mais je sais que j'y vais pas pour gagner le Tour, quoi. Je sais que je vais être moins bon, avec moins de budget, avec des coureurs moins forts. Tu sais que tu vas. Tu sais
oui,
que
mais
tu
moi,
vas,
je me souviens avoir eu des discussions avec toi, Jérôme. Tu imaginais que j'aurais même des choses sûr, grandioses avec ton équipe.
Mais pas avec l'équipe
équipe
qui s'est présentée sur le tour.
Non, enfin, mais parce que tu étais en construction, là.
C'est la démarche qu'on avait fait il y a 4 ans pour pouvoir passer un grand cap et aller enfin jouer avec les meilleurs. C'est pour ça qu'on s'était associé à l'époque sur des belles paroles avec certains grands partenaires et une grande ville. Il nous l'a mis à l'envers, je vous le raconterai plus.
Allez, on referme la porte de votre vestiaire. Comment accepter de ne pas être le meilleur?